Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à cette 10e émission de Star Wars en direct, édition Clone Wars. Cette semaine, nous discutons du 12e épisode de Gungan General. Cet épisode a été écrit par Judy Siege, qui a travaillé sur la série Supernatural, et réalisé par Justin Ridge, qui avait réalisé Rookies. Au niveau de la distribution, nous avons B.G. Yu dans le rôle de Jar Jar Binks, Jim Cummings pour Hondo Onaka, Corey Burton pour le Comte Dooku, ou encore Greg Ellis pour Turk Falso. Voici un court résumé de l'épisode. Alors qu'ils négociaient la rançon pour réclamer le Comte Dooku au nom de la République, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi sont faits prisonniers à leur tour par les pirates. Dans la cellule, ils découvrent alors qu'ils sont attachés au Comte Dooku en personne. Les deux Jedi et les seigneurs Sith doivent maintenant faire équipe s'ils souhaitent s'enfuir. Malheureusement, leur plan ne se déroule pas comme prévu. Mais ce n'est sans compter l'aide improbable de Jar Jar Binks, envoyé comme représentant officiel sur la planète Florum, en compagnie d'une escouade de clone troopers. Le Gungan n'a qu'une seule envie, sauver les deux Jedi. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode, et voilà notre discussion. Bonsoir Danny.
Bonsoir.
Tout se passe bien chez toi?
Bien sûr. On fait un marathon ce soir.
Ouais. Bonsoir Gaspard, qui est notre petit nouveau au sein de l'équipe de The Clone Wars version francophone, bien que Danny soit le Québécois du coin.
Eh bien bonsoir tout le monde.
Tout se passe bien aussi chez toi?
Oh bah pour l'instant oui, tout se passe bien.
Bienvenue à Star Wars en direct.
Merci Danny.
Donc j'imagine que tout le monde a vu le dernier épisode du Gungan General.
Oui, en effet.
Bien sûr, oui.
Tout le monde va voir que les avis vont être partagés, j'imagine. Mm-hmm. Donc on va aller comme la dernière fois, scène par scène. Donc si vous êtes prêts, on va commencer.
Allez.
Allons-y.
Donc l'épisode commence peu de temps après qu'Obi-Wan et Anakin eut été drogués par les pirates. Donc là, on voit justement, là je pense que tu peux inscrire le petit comique Danny, mm-hmm. parce qu'il se passe vraiment, c'est vraiment juste après l'épisode précédent.
En effet, ben justement. Si vous avez écouté le dernier épisode, on a mentionné des incongruités dans les textes entre la BD et l'épisode télé. Encore une fois, dans cet épisode, comment quelqu'un qui n'a pas lu la BD se demande comment est-ce possible que Anakin et Obi-Wan soient drogués. Dans la BD en ligne, évidemment, qui s'appelle Switch, on voit le Kwakian Monkey Lizard qui se nomme Pilf Mukmuk, qui a réussi à droguer Anakin et Obi-Wan. Il a essayé à plusieurs reprises. On a vu celui par la boisson. On a après, dans la BD, on voit qu'il a essayé de droguer en mettant la drogue dans le poulet ou dans de la volaille. Ensuite, en faisant tomber un chandelier ou quelque chose du genre sur la table. Et finalement, la seule façon qu'il a trouvé pour droguer Anakin et Obi-Wan est de mettre la drogue dans la ventilation. Et là, toute la pièce au complet a été droguée, incluant d'autres Nitko. Donc ça, on l'a pas vu. Qu'est-ce qui est incongru par rapport à ça? C'est que quand on écoute le texte mentionne Obi-Wan, il y a une inconsistance. C'est que Obi-Wan, en se réveillant, il dit « I guess that pirate brew was stronger than we thought. » Donc, ouais. Que la bière était plus forte que l'on croyait, mais c'est pas de la bière pourtant, puisqu'on l'a vu dans la BD que c'est par la ventilation. Donc, il y a encore une inconsistance entre les textes, entre l'épisode télé et la BD. Puis ça me revient à dire encore une fois, comme la dernière émission, on devrait pas avoir une BD qui ramène des éléments qui sont essentiels. On aurait pu avoir une BD, par exemple, qui envoie Jar Jar avoir des problèmes en direction de la planète. Et puis, on le voit arriver par la suite dans l'épisode télé, ça n'a pas d'impact. Donc ça, c'est pas grave si on le voit pas. Mais faire des éléments qui qui ont un impact aussi grand. C'est la même chose dans l'épisode précédent. On voit Obi-Wan arriver, puis Anakin capturé. Qu'est-ce qui se passe? Puis le sabre à Anakin qui était brisé dans la BD, puis Obi-Wan lui ramenait ce même sabre. C'est s'il y a vraiment des inconsistances qu'il devrait pas avoir dans la série. Ouais. Donc, pour la première scène, il y a ça que j'ai vraiment remarqué, là.
Mais je crois que, si je me trompe pas, dans le petit truc où il rappelle l'épisode précédent, on voit un pirate en train de mettre de la poudre dans la boisson.
Mm-hmm. Mais c'était la scène, je crois, qui était déjà tournée. Ben, la même séquence, dans le fond. Mm.
Donc, par rapport aux deux épisodes, c'est cohérent, mais avec la BD, évidemment, là, c'est la BD qui crée l'incohérence. Mm-hmm.
Mais encore une fois, ils sont supposés avoir switché ou d'avoir changé les verres. On le voit à la fin du dernier épisode. On les voit quand ils font le santé. Et Anakin Obi-Wan change le verre avec le voisin, donc il devrait pas être drogué, à moins que tout le monde ait des verres drogués. Enfin, c'est du superflu, mais c'est quand même une incongruité dans la continuité entre les... Si on considère tous les éléments qui sont à notre disposition en tant que fan.
Surtout que c'est dommage, parce que c'est sûrement des trucs qui pourraient être évités assez facilement.
Mm-hmm, en effet.
Donc, ensuite, il se réveille dans une cellule et découvre avec étonnement que le comte Dooku se trouve en leur compagnie. Ils sont également attachés entre eux. Anakin n'est pas très ravi de la situation. Donc, là, ça m'a un peu étonné que Dooku ne tente pas de s'en débarrasser alors qu'ils étaient en train de dormir.
Mm-hmm. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup de... cette scène débute... Une des parties de l'histoire que j'ai bien aimé, c'est tous les petits dialogues entre Anakin, Obi-Wan et Dooku. Ouais.
D'ailleurs, on doit ça justement à Julie Siege, qui, comme je le dis dans la petite introduction, qui travaille sur la série Supernatural, qui est très proche des frères, mm-hmm. des frères Winchester, justement, qui ont déjà eux-mêmes une très très bonne chimie entre eux dans la série. Donc, j'ai tout de suite retrouvé ça avec Anakin et Obi-Wan dans l'épisode.
Mm-hmm. Enfin, j'ai beaucoup aimé les dialogues. Le dialogue quand il dit que Dooku c'est un vieillard et qui traîne de la patte, etc. C'est tout des petits gags ici et là où le most impressive quand un ou l'autre réussit à déjouer le gardien de la prison. Il y a quelque chose que j'ai trouvé étrange, par exemple, c'est que Dooku, au début, quand il a pris le couteau, je me demandais si c'était un couteau ou une clé de forme spéciale, parce que il a tout simplement inséré le couteau dans la serrure et voilà, tout s'est débarré. Donc
Ça doit faire un court-circuit.
Ouais, mais enfin.
C'est le métal avec le court-circuit, je sais pas.
Ouais, je sais pas.
Ce qui est un peu bizarre, c'est justement, on va en parler un peu dans la suite, mais il s'échappe deux fois de suite quand même.
Mm-hmm.
Donc oui, la première fois, c'est avec un couteau qu'il récupère dans le plat. Donc mm-hmm. on va d'ailleurs en parler un petit peu après. Donc ensuite, de leur côté, les pirates sont persuadés de gagner encore plus d'épices avec les Jedi comme prisonniers. Bien évidemment, ils sont tombés sur les mauvais Jedi, ça on pouvait s'en douter, hein, vu que c'est toujours comme ça, les méchants, ils veulent toujours en avoir plus, et c'est toujours le plus qui va les mener à leur perte, mm-hmm. dans tous les films.
Mm-hmm.
Donc ils veulent toujours un petit peu plus, et c'est encore là qu'il va... Ils auraient pas dû, quoi, encore une fois.
En effet. Bah, enfin! Vas-y, Gaspard.
Non, rien à rajouter, à part qu'il nous ressorte encore le même dialogue qu'il y avait eu à l'épisode précédent. Mm-hmm. Par rapport au fait que le chef des pirates disait qu'il tirerait plus d'argent avec la République que les séparatistes sur Dooku.
Mm-hmm.
Ça, il est obligé de le réexpliquer encore une fois. Je sais pas pourquoi ils l'ont vraiment réinséré.
En effet. Et il raconte aussi l'histoire que sa maman lui disait que c'est toujours mieux d'avoir trois.
Merci, maman. Ouais, c'est un peu raté après. Donc là, ensuite, on retrouve l'histoire de trahison, parce que justement, ensuite, un des pirates n'est pas convaincu des plans de son chef et envoie une équipe personnelle récupérer les épices pour lui-même. Donc là, encore un des thèmes de la série, la trahison, mm-hmm. la trahison d'un personnage.
Enfin, comme dans tout bon film de pirate, il y a une tentative de mutinerie, là. Donc, c'est Turk Falso, qui a rendu, pour moi, il a rendu l'histoire intéressante dans le sens que, durant toute la série jusqu'à présent, on a seulement vu les séparatistes contre la République. dans ce cas-ci, c'est deux factions à l'intérieur d'une même organisation. Donc, c'était une dynamique intéressante qui était originale, qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent.
On se retrouve ensuite sur Coruscant dans le bureau du chancelier. Ce dernier est en conversation holographique avec le sénateur Carus et Jar Jar Binks pour vérifier les derniers détails de l'opération. Donc là, première apparition de Jar Jar dans l'épisode. Ça y est, il commence déjà à énerver le chancelier.
Ouais. Donc, on n'a jamais su, on n'a jamais su c'était quoi la question qu'il voulait lui poser
d'ailleurs. Non, jamais su.
Pour dire que je pense qu'il s'en fichait un peu de Palpatine.
En effet.
Mais en tout cas, donc, première apparition de Jar Jar Binks, ça y est, il intervient en pleine conversation avec le sénateur, comme ça, il coupe la parole, sans gêne. Bon, ben, on a déjà le ton de l'épisode, hein.
Dans ma tête, j'avais l'impression que, peut-être à cause de la trilogie, j'avais l'impression que le sénateur de Malastair serait peut-être en connivence avec Palpatine au départ. Dans ma tête, c'était ça. Mais là, j'ai vu qu'il est quand même très sérieux, là. Puis je sais pas si vous avez écouté les commentaires de Dave Filoni.
Je n'ai pas le temps cette fois-ci.
Si vous remarquez, le sénateur de Malastair, Carus, a un bâton. Et il y a comme un petit effigie en haut, qui est en fait, l'utilisation, c'est le bâton qu'on voit dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Tu sais, quand il plante, il est comme dans le tombeau, il plante l'espèce de bâton,
le sceptre
ouais. Exactement, et qui fait ouvrir l'arche, et puis c'est exactement, ils ont repris cet item-là. Et puis, Dave Filoni, dans le commentaire, mentionne qu'on risque aussi de voir, on va voir l'arche dans un prochain épisode, éventuellement. Et puis, c'est un détail intéressant que moi, je ne savais pas. C'est qu'il y a dans le documentaire, on le voit, il y a un hiéroglyphe dans les aventures de l'Arche perdue de R2-D2 et C3PO sur une des colonnes avoisinantes, dans la scène où Indy découvre l'arche. Puis on la voit dans le documentaire, ils font une freeze frame, là, ils arrêtent la séquence et on voit, ils encerclent, on voit clairement qu'il y a un hiéroglyphe, c'est R2-D2 et C3PO, un à côté de l'autre.
Je vois, parce que depuis le temps que je cherche C3PO, parce que moi je savais qu'ils y étaient, mais ça fait perpète que je les cherche. Donc je vais pouvoir aller enfin voir où ça se trouve.
En regardant le petit commentaire, ouais. Tu vas le voir.
Ah voilà, la navette se rapproche d'ailleurs de la planète Florum. Ils sont alors pris en chasse par la soucoupe volante des pirates qui arrivent, et avec l'aide des pitreries de Jar Jar, ils arrivent à abattre le vaisseau qui s'écrase, tuant ainsi les deux pilotes et le sénateur Carus. Jar Jar devient alors le seul représentant officiel de la République. Ouais, bon là c'était vraiment personnellement, j'ai vraiment détesté ce morceau avec Jar Jar, parce que pour moi, il cause vraiment la mort des pilotes et du sénateur, parce que le sénateur est obligé de se détacher pour...
aller l'attacher, pour, lui.
Bah oui, pour aller attacher Jar Jar, et de l'autre côté, Jar Jar, il distrait les deux pilotes. Il y a certaines pitreries, bon, on peut comprendre un peu, mais là, c'est vraiment un peu choqué qu'il provoque vraiment carrément la mort de ces trois personnages.
C'est ça, c'est... Vas-y, Gaspard.
Non, bah un peu oui. Au début, on se disait qu'il y aurait pas de conséquences, mais c'est vrai que après, quand il nous montre complètement, enfin sur les scènes suivantes, qu'il nous montre complètement les corps des pilotes et le corps du représentant, c'est vrai qu'on on se demande où est la limite pour Jar Jar, quoi.
Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué de Jar Jar dans l'épisode? Bon, il est fidèle à lui-même dans la majorité de ses apparitions, surtout au début, là, justement, qui a causé la mort de la navette. Mais je pensais pas qu'il irait jusque-là, mais quand même. Mais une fois que Carus est mort, on dirait qu'il prend son rôle de leader un peu plus au sérieux. J'ai quand même aimé le fait que le commandant clone, c'est dans une scène un petit peu plus loin, mais le commandant clone le sait très bien qu'en envoyant Jar Jar négocier avec les pirates, il va arriver quelque chose, ça va créer une situation propice pour leur donner un avantage. Donc, ça, j'ai aimé ça, ce côté-là, et j'ai vu Jar Jar évoluer après la mort de Carus. C'est comme s'il prenait ça plus au sérieux. Il a même remarqué le mouvement des bêtes, là, par rapport aux éruptions des geysers, donc, il était plus sérieux à partir de ce moment-là. Même s'il gaffait toujours, c'est dans sa nature, mais il a pris son rôle un peu plus au sérieux. tout en étant aussi gaffeur qu'avant, mais au moins de sa tête, il était un petit peu plus sérieux de la tête, si on peut dire.
Ouais, mais bon. Ça m'a quand même un peu choqué comme la mort.
Ah bah oui, ça. Puis c'était à l'écran, là. Vraiment, on voyait dans le corps tout déformé. On le voyait qu'il était mort dans une position assez atroce, là.
Je crois que ça m'a vraiment choqué si évidemment les personnages n'étaient pas morts, mais vraiment là les voir mourir, j'ai dit la gaffe, là ça va un peu trop loin.
D'ailleurs, j'ai pas remarqué s'il y avait eu l'avertissement de
mort. En tout cas dans la version que j'avais, il y a pas d'avertissement. Et c'est ce qui m'avait interpellé, parce que voir le corps du sénateur comme ça, avec les clones on a un peu l'habitude, mais le corps du sénateur, je sais pas si c'était vraiment indispensable de le montrer ou pas.
Et même à la fin avec Dooku, c'est assez clair là, quand on voit l'autre se faire tirer et puis l'autre il l'étrangle puis il tire par terre puis bon.
Mais je pense qu'ils ont peut-être plus le droit quand ce n'est pas un humain.
Ouais, c'est ça.
Je me demande, parce que souvent quand ils tuent un personnage plus humain, c'est plutôt en dehors de l'écran. Ouais. J'ai un souvenir comme ça, d'une sorte de, je crois que c'est dans Clock of Darkness, je crois qu'à un moment il tue un clone, un truc comme ça, il le montre en dehors de l'écran.
Mais quand ils ont tué le commando du Sénat, quand il pilotait, c'est Asajj Ventress qui l'a transpercé, il y avait eu l'avertissement. Quand ils ont tué Gannacht, qui était le revendeur de droïdes, là, qui avait capturé R2-D2, ils avaient mis l'avertissement aussi. Donc, ça ne se limite pas aux humains, je dirais. Mais en tout cas, si on considère Gannacht, c'est quand même, c'est un Transdotion, mais bon, il avait mis l'avertissement quand même.
Oui, surtout qu'on peut se demander de l'utilité du plan, justement, de le montrer, vu que sur celui, le plan précédent, quand Jar Jar Binks et les clones restants se relèvent, on voit quand même dans le coin de l'écran, on voit la main du sénateur, au premier plan, en fait, on devine qu'il est là, mais on sait qu'il bouge plus. Mm-hmm. Et ils sont obligés de nous montrer un plan de face du sénateur.
En effet. Juste la mention des clones à Jar Jar que le sénateur n'a pas survécu. Et puis après, on voit la tombe, de toute façon, qu'il crée. Donc, même les jeunes auraient compris sans avoir eu à voir le corps, là.
Voilà, exactement.
C'est peut-être la façon dont ils meurent, donc ça dépend. Peut-être que transpercé par un sabre laser, ils ont pas le droit. Il faut qu'ils mettent un avertissement, mais quand la personne ne touche pas, genre Dooku qui utilise la force, peut-être que, je sais pas, faut peut-être s'en renseigner, peut-être que quelqu'un avec saurait mieux comment les restrictions s'opèrent.
Mais c'est peut-être aussi par rapport à ceux qui, comme nous l'avons eu en téléchargement, peut-être que l'édition, ils ont peut-être enlevé ces petits morceaux d'avertissement-là aussi. Là. Mm. Peut-être qu'ils étaient là vraiment sur Cartoon Network, mais la version qu'on a eue, peut-être qu'il avait été enlevé.
Possible aussi, hein, parce que ça dépend des gens qui enregistrent le truc.
Mm-hmm. Oui, ça dépend, ouais. C'est vrai que la dernière fois, ils avaient été là, les avertissements, sur les deux derniers épisodes, où il y en avait eu, justement.
Ouais, c'est ça.
Mais là, non. Donc, je sais pas.
Si je me souviens, j'avais entendu dire que pour la mort de Gannacht, il y avait eu un avertissement, mais dans la version que moi j'avais vue, il ne l'avait pas. Donc, c'est certain que la censure est différente. Au Canada, c'est moins pire qu'aux États-Unis, donc peut-être qu'au Canada, ils l'ont laissé passer. Je sais pas. Ça dépend peut-être des pays et puis du montage de celui qui le laisse en ligne. Là.
Alors, on retrouve... Donc, dans leur cellule, Dooku attire un plateau de nourriture à lui, en sort un couteau et arrive à ouvrir la porte de la prison, permettant aux Jedi aussi de s'enfuir une première fois, car ils tombent bien vite sur une équipe de pirates qui les attendent de l'autre côté d'une porte. Donc, la première tentative d'évasion dont on n'a pas, je crois qu'on a un tout petit peu parlé plus tôt à cause de l'histoire du couteau. Donc, première tentative. Ils se retrouvent entre deux feux, entre plus deux groupes de pirates après qu'Anakin ait ouvert une porte. Donc là, ils sont évidemment reconduits dans leur cellule tout de suite. Je sais pas si vous avez une critique, un commentaire sur cette scène.
Bon, enfin, le muc-muc, là, il est partout. Hein? Oui. Le petit Quakin Monkey Lizard, il est partout parce que par hasard, il était là et puis Et on le voit qu'il traîne toujours le sabre laser avec lui, pratiquement, d'Anakin.
Mais au fait, Danny, si je me trompe pas, c'est bien la même race que celle à Souscrum, non?
Oui, oui.
Ouais, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais j'étais plus tellement sûr tout d'un coup.
Sauf qu'il a plus les couleurs d'un perroquet, justement, pour faire comme sur l'épaule d'un pirate de Anaka, là, Onaka. Il a vraiment quand même sa veste au collet, pareil comme Albator, Onaka.
Les pirates rebelles, comprenant qu'il reste des républicains en vie, envoient une escouade de speeders pour finir le travail. Les clones et Jar Jar se font attaquer alors qu'ils étaient en train d'enterrer le sénateur et de préparer le plan à adopter pour la suite. Donc là, on a l'équipe de pirates rebelles qui, avec leur speeder, d'ailleurs, j'ai vu seulement tout à l'heure qu'ils avaient un Twi'lek sur la carlingue quand on les voit dans le hangar.
Et dans le garage, justement, il y avait un poster de Twi'lek, ouais.
J'ai vu ça, c'est via le site officiel qui a montré le petit clin d'œil.
Très typique très typique en Amérique. Je ne sais pas si en Europe c'est typique aussi d'avoir un calendrier de modèles dans le garage là pour les gars.
Bon, on a un peu pas la même chose chez les clones dans le film Clone Wars avec leur
gunship.
Ouais, voilà.
Enfin, c'est
plus ils avaient aussi les Twi'leks et tout ça.
Mais ça, c'est plus un hommage aux bombardiers de la Deuxième Guerre, mais c'est le même principe.
Ensuite, l'équipe républicaine arrive à se réfugier dans un des cratères à Geyser et les pirates arrivent à prendre les épices. Donc là, c'est Jar Jar qui a une bonne idée, enfin. Mm-hmm. Ça lui change. Comme tu disais, Danny, il a un peu mûri après la mort du sénateur. Mm-hmm. Donc il a l'idée, il précise bien que tant que les grosses bestioles sont là, il ne risque rien. Mm-hmm. D'ailleurs, je trouvais ces bestioles-là plus amusantes que les gros machins, les grosses patates de l'épisode 2.
Ok. Mm-hmm. Enfin, peut-être Jar Jar a l'habitude d'étudier la faune, parce que j'imagine que ouais. Quand il était sur Naboo en dessous de l'eau, avec la quantité de monstres marins qu'il y a, il doit avoir tendance à porter attention à leur comportement. Donc peut-être que ça vient de là, mais enfin.
Donc ensuite, dans la forteresse, Obi-Wan arrive à convaincre un des pirates de leur ouvrir la porte de la cellule pour leur seconde tentative d'évasion. Après avoir réussi à atteindre l'extérieur, ils n'arrivent pas à dépasser le mur de l'enceinte et se font à nouveau capturer. Donc là, deuxième évasion. Donc voilà. J'ai bien aimé la fin, justement le fait qu'ils se retrouvent devant les pieds du chef pirate, qui leur dit qu'ils ne peuvent plus être amis. Mm-hmm. C'est le genre de petits détails qui sont toujours amusants, je trouve.
Mm-hmm. Et le saut à la perche était un peu poussé, là.
Ouais. Mais, oui.
Surtout que les trois suivent.
Par contre, j'aime bien Anakin à moitié mort. Faut lâcher Dooku. Le point mort.
Mais encore, je suis surpris que Obi-Wan ait attrapé Dooku. Pourquoi l'avoir attrapé?
Parce qu'ils veulent le ramener.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mm-hmm. Ils veulent le faire prisonnier de toute façon pour qu'il fasse face au Sénat ou
à la justice.
Ouais, voilà.
Même ça, il serait tellement mieux sans l'avoir dans les jambes.
Oui, c'est sûr.
On a beau vouloir être un modèle pour la paix dans le monde et de l'honneur, tel que mentionne le Fortune Cookie au début, qu'on a oublié de mentionner. Dans le fond, c'est ça, ils ont trop d'honneur, les Jedi en temps de guerre, là.
C'est ça qui a causé leur perte, sûrement.
Oui.
Pendant ce temps, les clones veulent récupérer les épices et c'est Jar Jar qui découvre l'idée qui va les aider. Monter les créatures qui se trouvent non loin d'eux. Ces animaux vont alors leur permettre de rattraper les speeders, des pirates et de récupérer la rançon. Donc là, quand même, on se demande comment des créatures comme ça, même si elles sont rapides, peuvent rattraper des speeders qui sont quand même très très rapides.
Mm-hmm. Ouais,
ça m'a fait étonner quand même.
C'est quand même surprenant.
Même si ça galope, même le cheval le plus rapide, il rattrapera pas une voiture. Mm-hmm.
Les bêtes, je pense qu'ils avaient nommé sur le site web de Star Wars, c'est les Scalder. Les bestioles qui ressemblent à des rhinocéros, là. Les Scalder. S-K-A-L-D-E-R.
On s'en souvient maintenant.
Ouais. Et maintenant, ouais. Mais c'est vrai que j'avais étudié légèrement le rythme, ça m'avait étonné aussi. Et c'est vrai que même, de toute façon, dans les plans séparés entre les speeders puis ces bestioles là, j'arrive pas à retenir le nom. Quand ils sont ados de bêtes, ils ont l'air beaucoup plus lents. Et pourtant, ils les rattrapent très facilement. On peut leur pardonner, hein, de toute façon, mais.
Enfin,
vu ce qu'ils nous font avec Jar Jar, on peut tout pardonner maintenant.
Voilà, oui.
Et enfin, on ne voit pas tout. Ils ont peut-être arrêté pour une raison quelconque les pirates pour, je sais pas moi, pour prendre une pause, je sais pas. J'en doute, mais bon. On peut imaginer plein de choses.
Pousse pipi.
Ouais, entre autres. Car les personnages Star Wars ne vont jamais aux toilettes, voyons. Jamais on a vu quelqu'un aller aux toilettes, à part des bestioles qui vont aux toilettes mais qui Jar Jar met le pied dedans ou quelque chose comme ça. Là.
Comme par hasard, encore lui, hein. Mm-hmm. La seule merde qu'il trouve sur la galaxie, c'est lui qui marche dessus.
Ouais, d'ailleurs, en sortant du cratère, je crois qu'il glisse sur justement des excréments justement de ces bêtes-là. Et puis c'est là que le commandant le rattrape par sa tunique. Tu regardes, on dirait qu'il glisse sur quelque chose qui a l'air justement d'excréments de cette bestiole-là. Donc j'imagine qu'encore Jar Jar a pilé dans la merde.
ça résume bien sa vie, hein.
Pas mal, ouais.
Le pauvre Jar Jar, qu'est-ce qu'il prend, hein? Donc on est presque à la fin de l'épisode. Anakin et Obi-Wan sont alors torturés pour s'être échappés deux fois de suite, et ils auraient très bien pu y passer sans l'aide improbable de Jar Jar, encore une fois, qui réussit à détruire les lignes électriques en montant sur un tank des pirates, censé faire prisonnier le Gungan. Donc justement, comme je crois que tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure, Danise, les clones envoient Jar Jar devant pour aller négocier avec les pirates, parce qu'ils se doutent bien qu'un représentant officiel, ça va leur apporter encore plus de rançons. Mm-hmm. Donc ils savent qu'ils vont pas le tuer. Donc ils invitent Jar Jar à monter dans le tank. Mm-hmm. Évidemment, Jar Jar, qui ne s'attend à rien, il y va tout à fait innocent. Et évidemment, il se retrouve à la tête du tank, qui va détruire les autres et détruire les lignes électriques qui vont empêcher Anakin et Obi-Wan de se faire torturer à mort.
Jar Jar avait peut-être encore de la merde sous les pieds, c'est pour ça qu'il est glissé.
Oui, parce que oui, il fallait absolument que dans le design du tank, qu'il y ait quelque chose sur lequel il puisse glisser, donc ils ont mis des rouleaux à l'arrière.
Mm-hmm. Ouais. En effet.
Comme qu'on en voit en France pour empêcher les animaux d'avancer sur les routes.
Voilà, c'est ça.
J'ai jamais vu ça.
C'est la même chose.
Je n'ai jamais vu ça, des rouleaux comme ça, pour empêcher les animaux d'avancer sur la route.
Si en France, on a un petit peu ça dans la campagne, c'est des petits ou plusieurs rouleaux, ça fait glisser les moutons, et comme ça, d'accord, ça les empêche de s'avancer en dehors de là où ils devraient aller.
D'accord.
Donc ça ressemble un peu à ça, Jar Jar.
Voilà, exactement. Sauf que là, c'est fait exprès. C'est vrai, c'est fait exprès et ça fait sauter la ligne électrique en plus.
Mm-hmm. Moi, je trouve ça étrange d'avoir Jar Jar avoir plaisir de attirer tout partout. Parce qu'on le voyait, il y avait quand même le contrôle du canon, puis il s'amusait à tirer tout partout en criant wouhou.
Non, d'ailleurs, je me souviens pas s'il y a des morts ou pas du côté pirate, mais ça m'a moins choqué ça que la mort, encore une fois, on en revient à la mort des personnages au début.
Il y a dû avoir des morts. Il y avait quand même trois tanks, puis à la fin, il y avait seulement deux personnes. Donc, j'imagine que...
Ouais, il y en a un qui a dû mourir, mais ce sont, en fait, qu'on a vu parler avant, mm-hmm. Il y en a un qui est désarmé par un clone, et l'autre, pareil, je crois. Mm-hmm. Parce qu'il peut plus rien faire, il était désarmé, il se relevait de son tank, et il obéissait à celui qui avait descendu Jar Jar.
Ouais, celui qui le traitait de parasite.
Oui.
Et donc, on est presque à la fin.
Moi, j'ai été surpris que ça crée une réaction en chaîne pour l'électricité. J'aurais pas nécessairement pensé que les pylônes exploseraient. J'aurais juste pensé que Le courant arrêterait. Mais non, ils ont fait exploser les pylônes un après l'autre jusqu'à la base. Mais bon, c'est un détail, là. Ça faisait plus spectaculaire, j'imagine.
Donc, dès que le courant a disparu, les Jedi récupèrent leur sabre laser et prennent le chef pirate en otage jusqu'à l'arrivée des renforts républicains. Donc là, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour récupérer leur sabre? Enfin, comment ils font? On sait comment ils le font avec la force, mais j'avais pas vu que les pirates allaient garder les sabres sur eux quand même. Comme par hasard, les pirates qui ont les sabres se retrouvent juste devant les Jedi au bon moment.
Ben en fait, pour celui d'Anakin, c'est encore le Monkey Lizard, là, c'est Mok qui avait le sabre entre les mains, comme tout le long des deux épisodes, c'est tout le temps lui qui l'a entre les mains, donc lui il était là. Le sabre d'Obi-Wan, ça c'est une autre chose, je sais pas c'est qui l'avait ou peu importe là. Mais en effet.
Donc tout ce petit monde repart alors dans le Twilight.
J'ai bien aimé quand même que Anakin Obi-Wan se fasse torturer un petit peu.
Ça change un peu. Ouais.
Bah ça fait un peu à parallèle à l'Empire contre-attaque, sauf que là on le voit légèrement plus longtemps. Mm-hmm.
Et peut-être, là c'est une grosse supposition, Anakin ayant vécu, se faire électrocuter comme ça, quand il a vu son fils Luke dans le Retour du Jedi se faire électrocuter, ça y a peut-être rappelé certains souvenirs de douleur intense.
Donc ça me rappelle chez ces pirates avec Obi-Wan. Mm-hmm.
Ce truc-là, j'aurais plus pensé au fait que ça soit Dooku qui l'électrocute dans l'épisode 2.
Ouais. Lui aussi. Ah, aussi. Mm-hmm.
Resté seul dans sa cellule, le comte arrive à s'enfuir après avoir tué l'un des gardes. Il arrive à faire son chemin jusqu'à une navette et sans scrupule tue les deux gardes. Et on termine l'épisode sur ça.
Pour moi, c'était une des scènes... Pour moi, c'est important parce que jusqu'à présent, dans la série, puis même, je pense, dans les films... Si je ne m'abuse, on n'avait jamais vu Dooku tuer quelqu'un vraiment. Habituellement, on le voit comme un grand sage qui connaît tout sur la force, autant light side que dark side. Tandis que là, on le voit vraiment agir comme un seigneur Sith, comme Darth Vader le ferait, sans merci. Dans le sens, il sert de ses menottes comme un garrot pour vraiment, tu le vois la haine dans son visage. Il redirige le blaster pour tuer, l'assistant de je me souviens plus de son nom, et puis il force choke l'autre et il le lance de côté. Ils ont même mis une petite musique qui faisait un semblant de dark side avec les chorales aiguës, là. Ça donnait vraiment une ambiance dark side, donc j'ai vraiment aimé voir Dooku sous cet aspect. Je me souviens pas l'avoir vu sous cet aspect, donc pour moi il vient de remonter un peu dans mon niveau de Sith Lord, là. Je me souvenais pas l'avoir vu de cette façon là.
Par contre, ce qui m'a un peu étonné, c'est que lui arrive sans problème à s'enfuir, alors que plutôt avec ils étaient trois Jedi et enfin deux Jedi et un Sith, ils arrivaient pas. Enfin, je pense que c'est parce que les pirates étaient sûrement distraits par Anakin et Obi-Wan.
Mm-hmm, exactement.
Il s'est servi peut-être que d'un inconsciemment, il s'est servi d'eux comme d'une diversion.
Mm-hmm. Bon, il a senti qu'est-ce qui se passait. Oui. Probablement des Jedi qui sont électrocutés, tu dois le sentir dans la Force, surtout à cette distance. Donc, j'imagine qu'il a dit bah, c'est le temps d'en profiter, tout le monde est ailleurs, donc on va se dépêcher vers la sortie.
Donc, on peut passer à une petite critique générale, alors, Dani, ton avis?
Moi, je l'ai aimé mieux que le précédent. Le précédent, je trouvais, si vous avez écouté vraiment mes commentaires, pour moi, c'était le pire après Bombad Jedi, là, je veux dire Bombad Jedi étant le pire, celui-là était le second, juste par l'approche, les problèmes de continuité, exactement. Celui-ci, j'ai beaucoup plus aimé de un parce qu'on a vu Dooku sous un autre angle, un peu plus vraiment Seigneur Sith. On a vu Jar Jar évoluer, on a vu un autre type d'ennemi, vraiment pas une interaction, mais vraiment la mutinerie, des confrontations à l'interne. Donc ça, c'était bon et rafraîchissant aussi. Et bon, graphiquement, les scènes dans la plaine où est-ce que la navette s'est écrasée, c'était extrêmement bien rendu, à mon avis. Vraiment, graphiquement, c'était très supérieur à Bombad Jedi. Donc, je dirais que c'est pas le meilleur, mais c'est moyen. J'ai quand même apprécié cet épisode plus que je le pensais. J'apprécie mieux la duologie maintenant que j'ai vu les deux un après l'autre.
Qu'est-ce pas?
Bah moi je vais rejoindre un peu Dany, c'est-à-dire que de toute façon avec celui-là il pouvait moins nous surprendre au niveau continuité par rapport aux autres épisodes vu que celui-là était le deuxième de la duologie. Donc au moins on n'est pas trop dépaysé, à part que même si par exemple le fait qu'il soit drogué au début ça nous surprend un petit peu, vu que pour ceux qui regardent juste les épisodes on s'était laissé sur le fait que ils étaient en parfaite santé en train de s'amuser. Mais après c'est il y a plein de bonnes idées comme le trio Obi-Wan, Dooku et Anakin et puis le Jar Jar qui évolue un petit peu. Mais il me laissera pas un souvenir impérissable non plus, avec toutes ces petites incohérences et toutes ces petites inconsistances qui font que finalement on sent qu'il y a plein de bonnes idées mais que elles ont été mises un peu en vrac en fait. J'ai vraiment une impression de non terminé et qu'ils auraient pu au moins vérifier ce qu'ils faisaient, que ce soit au début, que ce soit avec la mort des clones et du sénateur, que ce soit avec les sabres, toutes ces petites choses là. Il était sympathique quand même pour donc toutes les raisons que Dany a données à propos de la nouveauté qu'il y avait dans cet épisode.
Je vais être d'accord avec toi, il manquait un petit peu de finition. Pour l'ensemble.
Oui, et pour moi, bon, moi, j'ai pas vraiment apprécié cette duologie. Déjà, je trouvais qu'il y avait une grosse incohérence dans Dooku Captured. Là, Jar Jar n'a pas amélioré le tout. Surtout, comme on en parle depuis 5-6 fois, mais encore, cette histoire de mort au début, ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu un gros choc. Donc, mais c'est vrai que comme disait Dany, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes couleurs, j'ai beaucoup aimé l'interaction entre Anakin et Obi-Wan. Mm-hmm. C'est vraiment un des points forts et la fin avec Dark avec le Dooku, ça je trouve que ça a rattrapé un peu le tout.
On attendait depuis longtemps de l'interaction comme ça avec Anakin et Obi-Wan parce que on le voit dans l'épisode 3 comment sont rendus copains. Donc on veut vraiment voir, sont déjà très avancés dans la relation, mais on veut en voir plus.
La semaine prochaine, le 16 janvier, sera donc diffusé le premier épisode d'une nouvelle duologie. L'épisode 13 s'appellera Jedi Crash. Petit synopsis, lorsque Anakin est blessé lors d'une bataille, la Jedi générale Ayla Secura doit apprendre à Ahsoka la philosophie Jedi qui leur demande de ne pas avoir d'attachement, tandis qu'il brave une planète hostile à la recherche d'aide médicale pour sauver le chevalier Jedi. Ensuite, une petite rumeur sur les DVD. Une rumeur qui dit que la sortie de la première partie de la saison 1 sortirait en DVD fin mars. Pour l'instant, pas de Blu-ray annoncé. Et de plus, pour terminer, on peut annoncer que le film The Clone Wars sera nommé pour les Razzie Awards dans la catégorie Pire Suite.
Voilà. Donc, si vous avez des commentaires ou suggestions au sujet des épisodes de la série Clone Wars, laissez-nous un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct ou écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Je vous rappelle que si vous aimez cette émission, ben parlez-en autour de vous. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre tous nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas Star Wars en direct édition Clone Wars toutes les semaines. La semaine prochaine, ce sera, comme Henri l'a mentionné, Jedi Crash. De ma part, de la part à Gaspard et Henri, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.